bonjour à tous. Quel est le rôle de la femme politique dans la recherche de la solution à la crise actuelle? La République démocratique du Congo, nul ne l'ignore, traverse une crise politique. Et dans ce cadre-là, les contributions sont vivement souhaitées. La contribution de la femme également. On a célébré la journée des femmes le 8 et tout le mois est consacré aux activités relatives à la femme en République démocratique du Congo. Et justement, ce café de presse tombe à point nommé parce que ça va nous permettre à nous toutes et nous tous de donner des propositions qui certainement pourront aussi aider à faire évoluer le débat. Et donc nous, on va partir du cadre légal, et le cadre légal de la participation de la femme en République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui. Quel finalement rôle a joué pour la femme de la RDC dans la résolution de la crise? Pour parler de cette question, on a sélectionné quatre femmes. Maître Fifi Solange, elle est avocate au barreau de Kinshasa-Matete, secrétaire général adjoint de l'Union des démocrates pour la Renaissance du Congo, le parti cher à Bruno Mavungu. Ege Mapati, elle est coordonnatrice de l'ONG One Girl, One Leader. Maître Lisette Mavungu, elle est vice-présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Enfin, celle qu'on ne présente plus, Odette Bavandoa, elle est présidente d'un parti politique, l'Union des Patriotes Républicains. Les quelques rares femmes qui dirigent des partis en RDC sur le plus de 500 partis. La première à prendre la parole, elle va nous parler du cadre légal de la femme, tous les instruments juridiques en République démocratique du Congo qui favorisent la participation de la femme dans la gestion de la chose publique et notamment en politique. Maître Fifi Solange, avocat au barreau de Kinshasa, je vous donne la parole.
C'est un honneur pour moi. Moi, je préfère mieux avant d'entrer dans les vifs du sujet, c'est-à-dire parler des lois qui régissent la participation politique de la femme en RDC. J'aime bien analyser certains concepts qui nous aideront à comprendre c'est quoi le cadre légal et l'intérêt que le cadre légal a par rapport à la participation politique de la femme en RDC. C'est ainsi que je commence toujours par expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques concepts, notamment l'égalité, l'équité, les genres, la parité et enfin les concepts actuels de la parité. En fait, c'est quoi l'égalité? L'égalité vient du latin aequali qui signifie uni, juste. L'égalité est l'état, la qualité de deux choses égales ou ayant une caractéristique identique. Pour les humains, l'égalité est le principe qui fait que tous doivent être traités de la même manière, avec la même dignité, qu'ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs. Point B, l'équité. C'est la qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence au principe de la justice naturelle. Impartialité. C'est le caractère de ce qui est fait avec justice et impartialité. Ça, c'est d'après Larousse. L'égalité et l'équité sont des concepts liés, mais comportent d'importantes distinctions. L'équité repose sur la volonté de comprendre les gens et de leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et vivre des vies saines. Par ailleurs, l'égalité repose sur la volonté d'offrir la même chose à tous les gens pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre des vies saines. Tout comme l'équité, l'égalité vise à promouvoir la justice. Mais l'égalité ne peut être atteinte que si les gens partent du même point de départ et ont le même besoin. Les gens. Les gens, c'est l'ensemble des êtres ou des choses ayant un caractère commun. De l'anglais gender. Les gens est un concept sociologique désignant les rapports sociaux, des sexes et de façon concrète l'analyse des statuts, les rôles sociaux, relations entre les hommes et les femmes. Cette définition nous vient de l'association adéquation. Et la parité, étymologiquement le mot parité vient du latin paritas qui signifie égal à, semblable à, de même force, de même talent. La parité, l'égalité ou la similitude entre les objets de même nature ou de même qualité. Là, nous nous référons au dictionnaire politique. Le terme parité est parfois utilisé pour désigner le paritarisme, c'est-à-dire la cogestion d'un organisme par un nombre égal de représentants, des employés et des employeurs. La conception actuelle de la parité. Et enfin, pour son initiatrice Claudette Aprive, la parité homme-femme est un impératif de la démocratie. Du fait que la notion du peuple, qui est au centre de la démocratie, a trouvé un contenu précis et concret. Selon elle, donc Claudette Aprive, les deux composantes de la souveraineté du peuple, c'est-à-dire les femmes et les hommes, cogère à part égale les affaires de la cité. Autrement dit, un équilibre doit être assuré entre les sexes dans la séparation, dans la préparation et la prise des décisions. Actuellement, la parité constitue le thermomètre d'une véritable démocratie. Il importe de souligner que tous ces concepts sont mis en exergue dans le seul objectif, celui de lutter contre les inégalités engendrées par des déséquilibres constatés entre les deux sexes, souvent à l'avantage de l'homme. Ainsi, ces concepts sont transformés en principes démocratiques. C'est dans cette logique qu'au fil des années, ces concepts ont été employés dans des différents pays qui prônent la démocratie. Et nombreux sont des pays qui, de manière explicite, consacrent ces principes dans leurs arsenaux juridiques. Par exemple, la France, la Suède. Cela dans le souci de permettre à la femme, mise à l'écart pendant longtemps, de participer aussi à la gestion de la chose publique. Mais qu'en est-il de la situation de la RDC? Le point 2, c'est là que nous allons aborder le cadre légal de la participation politique de la femme. Après l'émancipation de la femme voulue par le maréchal Mobutu, qui à son époque a élevé quand même la femme de sa manière, nous arrivons en 2003 au dialogue inter-congolais. C'est en ces moments que la RDC a levé l'option d'appliquer les genres comme principe de base. À présent, nous devons parcourir les différents textes promulgués après la tenue du dialogue inter-congolais afin de faire un état des lieux sur la mise en œuvre de principes démocratiques cités ci-haut. Les législateurs congolais voulant se conformer aux normes internationales relatives à la participation de la femme ratifiées par la RDC, notamment la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a adopté des lois apparemment vagues et incomplètes. À la lumière de ce qui précède, il apparaît clairement que les législateurs congolais manquent de volonté politique. Car à titre d'exemple, la loi électorale demande le respect de la parité lors d'établissement des listes électorales de partis politiques. Mais son non-respect n'est pas un motif d'irrécevabilité de ces listes. Ce comportement prouve à suffisance que le législateur n'est pas de bonne foi en ce qui concerne la participation politique de la femme. Relevons également que la loi des financements publics des partis politiques fait allusion au respect de la parité homme-femme pour bénéficier de l'octroi des financements publics. Malheureusement, cette loi reste hypothétique et elle n'oblige pas par sa non-effectivité, c'est-à-dire par sa non-application, les partis politiques de respecter cette parité lors des échéances électorales. Tenant compte de tout ce qui est dit ci-haut, il importe aux législateurs congolais de se doter réellement d'une volonté, sans aucune ambiguïté, pour promouvoir les femmes en politique et lutter contre les inégalités sociales. Quant à nous femmes, donc là je m'adresse particulièrement aux femmes qui sont dans la salle, notre participation politique ne doit pas être seulement un sujet de texte et de loi, mais surtout une réelle volonté de notre part à nous lever et à prendre ces combats à bras les corps. Bref, seuls les textes et les lois ne suffisent pas à garantir la parité, mais plutôt la prise de conscience des femmes et de leur total engagement en politique permettra largement à ces dernières de jouir de tous leurs droits. C'est ainsi que moi, personnellement, je trouve et j'estime que les femmes doivent continuer leur plaidoyer pour la mise en application d'un système de quotas, non seulement des quotas sur les listes des candidatures, mais des quotas sur le nombre de sièges dans les assemblées législatives et électives, seul gage de l'atteinte de la parité.
Ijeoma Patti, coordonnatrice de l'ONG One Girl, One Leader, va essayer de nous entretenir sur cette question de la sous-représentation de la femme dans les institutions en RDC.
Je remercie tout le monde et l'organisation. Le nombre des femmes influe dans la prise de décision. La situation actuelle demande à ce que les femmes puissent prendre conscience de leur rôle. Les femmes doivent comprendre que seules ou bien un nombre minime face aux hommes, ces femmes-là baignent dans le système. Elles n'auront pas de voix. Même si elles parlaient, il suffit seulement de dire qui sont pour, qui sont contre. Toutes ces femmes-là baignent dans le système. Vous pouvez avoir de bonnes idées, vous luttez. Vous êtes des porteuses de bonnes voix, des solutions. Mais une fois on demande qui sont pour, qui sont contre, vous baignez dans le système. Moi, je dirais aujourd'hui, il faudrait que les femmes s'engagent. Il faudrait d'abord comprendre, l'engagement patriotique doit précéder l'engagement politique. Quelqu'un qui s'est engagé patriotiquement comprend et sert son pays dignement. Vous verrez même lors des campagnes, les hommes qui disent, ne votez pas pour ces femmes. En train de dire aux femmes, ne votez pas pour ces femmes. Nous, femmes, nous devons nous unir, nous devons nous soutenir. Une femme en politique, elle baigne dans les systèmes. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique.
Maintenant, on va répondre à la question de savoir où, à la problématique des questions auxquelles les femmes devront répondre pour un rôle efficace dans la résolution de la crise en République démocratique du Congo, Maître Lisette Marungu, présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Je vous accorde la parole.
Vous avez été demandé de réfléchir sur le rôle de la femme politique à la recherche de solutions à la situation des crises de la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, je dis que la femme politique a un rôle prépondérant. En tant que porteuse de paix, elle doit participer de manière efficiente et efficace à tous les processus. Mais pour y arriver, elle devra répondre elle-même d'abord à une série de questions. La première question, c'est qui suis-je? Qui est-elle, la femme politique? Si nous référons à Platon qui dit « connais-toi toi-même », elle doit d'abord se connaître. Elle est femme politique ou femme en politique? Il faudrait qu'on fasse une différence parce qu'il y a une certaine nuance entre les deux. Parce qu'on remarque très souvent que nos sœurs qui sont en politique, elles sont plus en politique que femmes politiques. Donc, elles devraient faire un effort de pouvoir répondre à la question et de pouvoir se démarquer si elles sont femmes politiques ou femmes en politique. La deuxième question, après avoir su ce qu'elles sont, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire. Elles doivent savoir qu'elles doivent apporter une plus-value qu'on attend pour pouvoir rehausser le blason de ce beau pays. La première action à faire, c'est de pouvoir se mettre à niveau. Et se mettre à niveau, c'est par rapport à une grande documentation, et plus encore par rapport aux instruments, aux textes qui donnent ce pouvoir-là de pouvoir exercer ce qu'elles sont en train de faire. Il y a beaucoup de textes qui assoient la capacité des femmes politiques. Et surtout que nous savons par rapport aux prescrits de l'article 215 de la Constitution que les traités et accords dûment ratifiés par la République démocratique du Congo en force de loi et que par ce fait, que tous les instruments internationaux qui ont été ratifiés et nos instruments nationaux nous permettent et permettent à la femme politique de pouvoir travailler aisément. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'elle interroge l'histoire de pouvoir savoir qu'est-ce que les autres ont fait aussi quand ils ont connu ce genre de crise. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour pouvoir surmonter cela? Ce n'est pas montrer sa faiblesse. Là, au moins, c'est montrer qu'on a grandi, on voudrait faire mieux, mais on voudrait interroger l'histoire parce qu'on ne pourrait pas inventer certaines choses. La troisième question, c'est de répondre à où. La femme politique doit se placer partout où il est important, partout où il est nécessaire de faire entendre sa voix. Elle doit chercher, elle doit savoir là où elle doit être et si c'est important, elle doit y être. Si c'est à la Cinco, il faut que je sois là. Si c'est, on va faire, il y aura un autre dialogue, je ne sais pas, à Libreville, il faut qu'elle soit là. Elle doit chercher à savoir où et tout faire pour y être. La quatrième question, c'est de répondre à la question de quand, le moment. Je répondrai autant que dure une vie civile, sinon autant que dure sa vie, son action en politique. On ne peut pas avoir des temps morts. Il faudrait que les femmes politiques soient présentes en tout temps. Qu'on sente leur engagement, qu'on sente qu'elles sont là. Quand une question de l'heure qui se présente, qu'elles portent la voix. La cinquième question, c'est de savoir comment elle doit y arriver. À cette question de comment, premièrement, c'est d'éviter de se faire toujours inviter. Au risque que si on ne vous envoie pas une invitation, vous avez du mal à rehausser votre présence à une activité. Mais de bousculer, de travailler dur pour être là, pour montrer que je suis là et je dois être là. Parce que je suis partie prenante au processus de paix. Deuxièmement, principalement par rapport à la femme politique congolaise, c'est de pouvoir créer des alliances fortes et des alliances durables basées sur des idéaux communs, femmes, paix et sécurité, en mettant de côté toute coloration politique. Parce qu'il va de la question de la femme, il va de la participation politique de la femme, il est important que la femme, de la majorité ou de l'opposition, puisse faire un effort de mettre à côté toute cette différence pour rehausser la seule question qui intéresse la population, c'est la participation de la femme. C'est la femme politique, non de la majorité ni de l'opposition, mais de la femme politique congolaise. Et à la dernière question est celle de répondre pourquoi. Pourquoi la place de la femme politique elle est tellement prépondérante? Parce que premièrement, qu'on le veuille ou pas, elle est partie prenante à la solution à trouver à la crise que nous connaissons en RDC. Deuxièmement, pourquoi la femme politique, pourquoi sa place est-elle importante? Parce que c'est elle
qui portent la voix de 52% de la population. Ne dit-on pas que la population féminine en RDC représente 52%? Mais puisque les femmes, autres que les femmes politiques, ne peuvent pas se mettre sur certaines sphères pour parler, nous comptons sur nos sœurs qui sont en politique pour pouvoir porter nos voix à nous toutes, à nous qui sommes pas en politique et à elles qui sont en politique, de porter les 52 voix. Et enfin, pourquoi le rôle important de la femme politique? Parce qu'elle est mieux placée pour pouvoir exprimer, pour pouvoir porter haut le lourd tribut que payent les femmes lorsqu'il y a crise. Elles sont mieux passées pour cela. Et c'est pourquoi il est important qu'elles soient là. Et voilà, si nos sœurs en politique arrivent à répondre à ces questions, déjà que nous avons répondu qu'elles ont un rôle important, mais pour pouvoir bien exercer ce rôle, qu'elles essayent de répondre à ces questions, et en ce moment-là, elles verront qu'elles vont devenir incontournables. Je vais terminer par la citation de Laurel Stone qui dit: le processus de paix qui inclut les femmes en qualité de témoins, de signataires et ou de négociatrices ont affiché une hausse de 20% de chances d'obtenir un accord de paix qui dure au moins 2 ans. Cette probabilité augmente avec le temps, passant à 35% de chances qu'un accord de paix dure 15 ans.
Parmi les panélistes, il y a une qui est pleinement dans la vie politique, elle a mené un combat aux côtés des hommes depuis et ce combat est aujourd'hui reconnu par tous. Elle va nous parler peut-être aussi un peu de son expérience personnelle, mais également de comment elle vit la politique avec ses autres sœurs dans cet environnement politique en République démocratique du Congo. Mais au-delà de tout, elle va plancher sur la participation de la femme dans la politique pour la promotion de la paix et la cohésion nationale. Présidente d'un parti politique, Union des Patriotes Républicains, j'ai cité Madame Odette Vambado. Très respectueusement, Madame, vous avez la parole.
Je vais plus aujourd'hui parler du rôle que la femme doit jouer pour apporter sa plume, sa contribution à sortir le Congo de la crise. Qu'est-ce que la femme politique a déjà fait comme apport. On m'a demandé de parler de mon expérience personnelle. Je crois que le combat politique ici, je l'ai commencé, j'étais jeune. Mais dernièrement, ce que nous sommes en train de vivre, l'actualité politique aujourd'hui, ce sont les deux dialogues qui sont en train d'effrayer la chronique. Il y avait le dialogue de l'OIA et le dialogue de la CENCO. Moi, bien malgré avant que le dialogue de l'OIA commence, j'avais demandé qu'on devait aller participer au dialogue. Parce que dans le regroupement politique où j'étais, le président de la République avait envoyé ses émissaires pour demander qu'on aille au dialogue. Il fait cela plus de 2 ans. Et tout le monde estimait qu'on ne devait pas aller au dialogue. Moi, j'avais réagi en disant que nous sommes dans un pays africain. Et ceux qui sont au pouvoir, ils ont la force. Ils ont tous les moyens pour bloquer le système. Nous sommes presque à quelques mois des élections. Nous devons exiger que nous ayons les élections. Les autres vont brandir qu'il n'y a pas d'argent. C'est alors mieux que nous allions dans ces dialogues-là pour que face à face, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont de l'opposition, qu'on se les dise en face, nous devons avoir les élections dans les délais prévus par la Constitution. Les hommes politiques sont en train de s'entretirer juste pour le partage du pouvoir. Ce n'est plus la nécessité d'avoir un calendrier, d'identifier d'où viendra l'argent pour organiser les élections. Ce sont les postes maintenant qui sont en train de déchirer les gens. Et nous allons rester comme ça jusqu'à à quel moment? Ça commence aussi à devenir hypothétique. Dans tout ceci, c'est au sein de la politique que se décide l'avenir de la nation. Et au sein de la politique, nous sommes presque absents. Sur les 500 députés, nous ne faisons même pas 10%. Dans les institutions, on est presque absent. Bien malgré qu'il y a des textes, bien malgré qu'il y a notre volonté. Je considère que la femme doit s'engager pour que nous puissions nous en sortir. J'ai toujours dit, la grandeur n'est pas l'allié de la facilité. Si nous avons épuisé tous les moyens des droits, les textes qu'on a mis à notre disposition, Si nous avons utilisé notre technicité, notre intelligence, et que nous n'arrivons pas à avoir plus de place en politique, nous pouvons encore trouver d'autres moyens. Agir seul, vous pouvez être écrasé. Mais si nous arrivons à constituer des lobbies, des groupes de pression, avant de venir ici, j'étais en train de réfléchir, je dis, mais pourquoi ne pas proposer, par exemple, la création d'un corps de femmes pour la défense de la République? Et ce corps de femmes va être constitué de toutes les femmes, toutes les tendances confondues. On fait quand même le lobbying, le plaidoyer pour interpeller pourquoi la femme là, dans telle composante, ne s'est pas retrouvée. Et nous devons alors avoir le courage d'agir. Mais si nous sommes en groupe, nous pouvons agir encore mieux.
Quatre panélistes, mais exceptionnellement parce que la vie politique ne se règle pas seulement dans les médias, mais les médias aussi font partie des canaux pour passer le message. Parmi nous, il y a une femme, une patronne d'un média. Elle est patronne de Numérica Télévision. Alors, le rôle des médias dans l'accompagnement des femmes qui participent dans la recherche de la solution à la crise actuelle. Madame Kiki Kibambi, est-ce que les médias doivent accompagner ces femmes? Est-ce que les médias ont également un rôle à jouer dans la résolution de la crise, l'accompagnement des femmes?
Je voudrais d'abord parler aux femmes qui sont là, vraiment vous dire vraiment bravo, et nous poser à toutes une seule question. Quelle femme est prête à voter pour une autre femme présidente de la République? C'est pour moi la question qu'on devrait se poser. Pour les médias, évidemment, les médias ont un très grand rôle à jouer parce que le média, c'est un canal par lequel le message doit passer. Pour moi, c'est pas une guerre ouverte entre les hommes et les femmes. C'est une guerre entre les femmes et les femmes d'abord. Donc les femmes doivent d'abord savoir qui elles sont. Ce que vous avez dit, qui elles sont, est-ce qu'elles sont conscientes du rôle qu'elles devraient jouer?
Merci beaucoup, madame. On a suivi. Parole est accordée à chacun d'entre nous. Vous avez une question à poser. L'occasion vous est donnée. Une question.
Merci, je suis Patrick Lacoué, journaliste. Je parle tout en me posant une question. Vous faites un combat depuis des années pour la parité entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, vous lancez un thème qui est 50-50 à l'horizon 2030. Mais est-ce que vous-même, vous croyez à ce combat-là? Oui, on est dans la maison. Combien de femmes dans la maison changent les décisions? Et pourquoi ne pas le faire dans la société? Une femme, c'est une voix. Mais une voix qui influence beaucoup. Une femme éduque des enfants dans la maison. Elle a une influence. Mais pourquoi vous-même, vous minimisez votre influence sur la société? Madame Bamando a dit qu'elle a été l'unique femme à se lever pour dire oui au dialogue. Mais est-ce qu'elle-même, elle a cru à ce dialogue-là?
Je suis journaliste à la télévision Sam Bédigi. Nous, les femmes, nous avons toujours cette habitude de dire que les hommes sont des partenaires incontournables de femmes. Alors, par rapport à la question qui a été posée, quel est le rôle de la femme politique dans la recherche de la solution à la crise actuelle? Donc, cette crise n'est pas liée seulement à la situation politique, c'est aussi par rapport à la situation sécuritaire où, à l'est du pays, on compte plus de 50 groupes armés qui sèment la terreur et la désolation. Au Kassai aussi, également, on tue les gens. Et puis, dernièrement, il y a eu au Congo central, nous avons vu, avec Bundu-Dia Congo. Alors, pensez-vous que la femme politique seule peut trouver la solution par rapport à la crise que connaît notre pays?
Moi, je suis Julie Boccoli. J'ai deux questions, en fait. La première, c'est par rapport à la première, Madame Fifi Solange, qui a dit que seuls les textes de loi ne suffisent pas pour qu'il y ait parité. Bon, moi, je pars d'un exemple. La charte de la CPI prévoit, aux articles 38, alinéa 6, si je me rappelle bien, qui est dans la nomination des juges. C'est la loi qui, la charte prévoit. Dans la nomination des juges, il doit y avoir égalité de sexe. Donc, il doit, s'il faut qu'il y ait quatre juges, il doit y avoir deux juges féminins et l'autre masculin. Bon, je me dis, si vous dites que ce n'est pas le seul, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut déroger à cette grande loi, ces grands traités qui existent, parce que vous dites que ça ne suffit pas? Moi, je pense que si ça suffit, si on doit respecter cela, ça va suffire, ça sera suffisant pour qu'il y ait égalité. La deuxième question, c'est par rapport aux quatre intervenants. Il y a un adage qui dit que derrière la réussite d'un homme se cache une femme forte. Je me dis, derrière ces hommes politiques qui réussissent, leurs femmes derrière ne font pas la politique.
Qu'on ne se voile pas la face entre l'égalité et la rivalité. Qu'est-ce que vous conseillez à la femme pour arriver à renverser la tendance? Et puis, par rapport, si on prend le doute et la peur, qu'est-ce qui retient exactement la femme à participer? Là aussi, il y a à boire et à manger. Ça fait belle lurette que la parité a gagné du terrain, pas qu'à NRDC, dans le reste du pays, d'Afrique et partout ailleurs. Jusqu'à contraire, la femme pense qu'une partie de sa liberté est confisquée par l'homme.
On va permettre aux panélistes de répondre. Madame Babandoya, vous pouvez commencer.
Je réponds d'abord à monsieur qui a voulu savoir si les femmes croient à leur combat. Les femmes croient à leur combat. Et comme je l'ai dit ici, si nous nous mettons vraiment solidairement ensemble, nous pouvons vite changer les choses. Parce que nous constituons 52% de la population. Si les 52% de la population décident de ne voter qu'une femme, la femme sera au pouvoir. Et il ne reste qu'à nous qui faisons la politique, à faire le lobbying auprès de toutes les femmes, celles qui ne sont pas en politique, pour qu'ils comprennent la nécessité d'être en politique. Parce que c'est dans la politique que tout se décide. C'est le travail que nous, les femmes politiques, nous devons maintenant faire, amener nos sœurs à comprendre que quand vous votez une femme, vous allez voter pour votre bien-être, pour le bien-être et l'avenir de votre famille. J'ai cru au dialogue et je me suis battue pour le dialogue parce que je ne voulais pas qu'il y ait des morts encore de plus. Malheureusement, minoritaires, les hommes majorités, il y a eu encore des morts en plus. Mais malheureusement, après, ils se sont mis encore ensemble autour d'une table. Au lieu d'arracher le pouvoir sans dialogue, ils n'ont pas réussi à arracher le pouvoir sans dialogue, mais ils ont conduit encore les Congolais à la mort. Mais moi, j'ai cru au dialogue. Et je crois que si aujourd'hui on n'a pas de solution, ce serait mieux que les évêques ferment leurs portes et qu'on responsabilise l'homme politique, on le met devant sa responsabilité. Parce que nous n'allons pas continuer comme ça à passer le temps. Il y a quelqu'un à qui on a accordé des dépassements, et c'est lui le garant de la nation, que les femmes se mobilisent. On va le voir pour lui dire, vous avez encore le pouvoir. Alors les mois qu'on vous a accordé, faites de sorte que vous mettiez en place une bonne gestion de l'État qui va mobiliser l'argent pour qu'il n'y ait pas un autre dépassement. Nous ne devons pas croiser les bras et attendre. La gestion de l'État dans son ensemble est en crise. J'ai vu quelque part sur un réseau social que ce ne sont pas des politiciens qui sont des voleurs, mais c'est le peuple qui amène les voleurs à la politique. Il y a encore une autre maman qui a parlé que la guerre n'est pas que la femme doit s'apprendre à l'homme, tu ne me mets pas ici, ceci, cela. La guerre doit être entre femmes, entre elles. Je lui donne raison. C'est que si nous sommes solidaires, on peut seulement ignorer les hommes. Mais avec nos 52%, nous n'allons pas nous entretuer. Mais si les femmes ne font pas comme les hommes, nous tous, nous devons être là. Si on se met d'accord, dit non, cette fois-ci, nous reconnaissons que telle maman peut bien briguer ce poste-là. Et nous tous, nous allons nous mettre derrière cette maman. Argent ou sans argent, nous sommes 52 millions. Si chacun de nous donne seulement un dollar, dis-moi, je donne un dollar pour contribuer à l'élection de cette maman-là comme président. Nous allons nous retrouver comme ça avec 52 millions de dollars et nous allons faire passer notre candidat. C'est à nous à nous réveiller. Merci.
Maître Fifi.
Nous avons vu que les législateurs congolais veulent faire de la parité un principe démocratique dans la société congolaise. Malheureusement, ces législateurs n'ont pas la volonté qu'il faut. Et si les femmes se contentaient seulement aux textes légaux, au texte juridique, je pense que les femmes ne vont pas évoluer. Parce que parfois, les législateurs disent une chose, à la fois ils sont contraires. Quand le législateur dit, par exemple, dans la loi électorale que les partis politiques doivent tenir compte de la parité homme-femme lors de l'établissement des listes électorales, et les législateurs ne posent aucune condition contraignante, nous nous disons, nous ne savons pas ce que le législateur veut. C'est ainsi que je dis, nous n'allons pas nous contenter seulement de textes et de lois. Nous devons prendre ce combat à bras le corps afin que nous ayons ce que nous obtenons. Nous voulons que nous soyons nombreux dans les assemblées législatives, nombreuses au gouvernement pour prendre une décision. Nous savons tous que c'est la femme qui a conscience de ce qui se passe dans la société. La femme, elle est la première personne ou le premier être à subir ce qui se passe dans sa maison. Quand un enfant vient par exemple de l'école en disant à maman que j'ai été chassé de l'école parce que vous n'avez pas payé les frais, la maman dira, et non, quand la nouvelle vie arrive auprès du père, le papa dira tout simplement qu'attends, nous allons chercher l'argent. Mais la maman ne va pas, la maman ne va pas attendre. Hein. La maman dira peut-être que je dois vendre un pain, je dois faire ceci, cela pour que l'enfant aille à l'école. Vous comprenez que les femmes ont un cœur et les femmes sont moins belliqueuses par rapport aux hommes. Moi, je me dis aujourd'hui, que ce soit à la CENCO ou à l'Union africaine, si les femmes étaient majoritaires, aujourd'hui les histoires n'allaient pas être comme ça.
Est-ce que les femmes croient elles-mêmes dans ce combat?
La problématique de la participation de la femme à la politique, ce n'est pas une question congolaise. Il ne faut pas qu'on pense que c'est une question ici, qu'on en parle tous les jours, qu'ailleurs c'est déjà résolu, mais on n'en parle pas, non. Et d'ailleurs, si nous lisons même l'historique de 8 mars, vous allez voir, entre autres revendications, c'était principalement le droit de vote, le droit de travailler, le droit de participer à la vie politique. C'est pour dire que c'est un combat qui a commencé il y a longtemps, il est en train de continuer. Et dans certains pays, à l'heure actuelle, les femmes ne votent pas. Donc c'est pour dire que nous croyons en cela, c'est parce qu'il y a déjà des avancées et nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous ne minimisons pas ce que nous faisons, mais nous sommes conscients que, surtout si nous prenons la société congolaise, c'est une société patriarcale. Nous sommes nés, nous avons grandi dans certaines conditions. C'est pas du jour au lendemain, c'est comme si vous regardez à gauche et puis du jour au lendemain vous dites regardez à droite. Vous n'allez pas tourner la tête directement de risque de d'avoir une fracture au cou. Donc vous devez faire très attention comment vous y allez. Donc ce n'est pas facile pour nous. Et nous ne disons pas que la femme politique, c'est à elle seule que revient le mérite de pouvoir apporter des solutions. Chaque partie prenante au processus a sa part de responsabilité. Il est dit que donne-moi les faits, je te donnerai le droit. Nous avons un problème. Si nous réfléchissons en tant que juristes, il y a certaines choses que nous ne pourrons faire que si c'est légiféré. Tant que ce n'est pas légiféré, on a des difficultés à l'exécuter. Avoir une loi, c'est une chose. La connaître, c'est une autre chose. Et encore la mettre à pratique, c'est encore une autre chose. D'abord, est-ce que nous connaissons nos textes de loi, premièrement? Et si nous le connaissons, comment nous devons y revendiquer? Si nous parlons de la loi portant sur le fonctionnement des partis politiques, c'est vrai, nous avons un problème. Dans ce texte de loi, on ne donne pas la sanction pour dire que si un parti politique présente une liste où il n'y a pas de femmes, où il n'y a pas la parité, cette liste sera rejetée. C'est difficile. Nous avons travaillé sur la loi électorale. Nous avons proposé qu'on puisse rejeter ces listes-là. Nous avons même proposé que le tiers des sièges dans certaines circonscriptions soit à compétition uniquement féminine pour pouvoir remonter le nombre de femmes. Parce qu'on se dit, pour une circonscription où il y a 3 sièges à pourvoir, au moins on est sûr que pour un siège, il y aura une femme. Pour les 2 autres sièges, les hommes et les femmes doivent se battre ensemble. C'est ça aussi ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est ça la signification de la discrimination positive. Mais la discrimination positive ne dure pas tout le temps. Ce sont des mesures qu'on prend pour pouvoir rehausser la pente. Et malheureusement, à l'heure actuelle, la pente qui est basse, c'est la pente de la femme. C'est comme ça qu'on a l'impression, et d'ailleurs, que c'est à tort qu'on pense que genre c'est femme. Non, genre c'est homme et femme. Mais pour l'heure, c'est la femme qui est en bas. Et on voudrait rehausser la barre. Le jour où il y aura les hommes en bas, c'est ça aussi. Dans la discrimination positive, c'est pour un moment. C'est comme ça qu'on a proposé. On a dit, comme il est difficile que les femmes puissent se faire élire facilement, qu'on puisse avoir des sièges à compétition uniquement féminine. Vous m'excuserez, mais moi, je n'adhère pas à l'assertion que les femmes ne votent pas femmes, les femmes ne s'aiment pas entre elles. Non, parce que là aussi, il y a à boire et à manger. Et il faudrait qu'on nous dise aussi si réellement les hommes aussi s'aiment entre eux. Donc là, c'est encore un autre problème. Mais au moins, c'est de montrer quand même un certain changement. Et d'ailleurs, quand nous voyons le Parlement, à majorité, il n'y a que des hommes. Donc, quand ils votent des lois, ils les votent en âme et conscience. Parce qu'on peut sortir les 49 femmes là, ils voteront une loi. Elles peuvent être là, ils voteront une loi. Donc, quand ils votent les lois, ils doivent être conséquents. Et encore, quand nous
nous adhérons ou nous ratifions des textes internationaux. Il ne faudrait pas que nous le fassions pour plaire au monde international. Il faut que nous soyons conséquents. C'est ça la difficulté. Nous ratifions des textes, mais quand nous rentrons au pays, nous avons des problèmes pour les mettre en pratique parce que quand nous nous retrouvons au Parlement, que ce soit les hommes de la majorité de l'opposition, c'est ça le sens patriarcal remonte tellement haut qu'ils oublient même que là, ils ne sont plus dans leur carcan culturel, mais ce sont des hommes d'État. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Et malheureusement, en fin de compte, c'est quoi? La cotation, on est toujours à la traîne. Est-ce qu'on n'a pas honte d'être toujours à la traîne? Quand nous parlons de doing business, nous sommes 169e sur 186e. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne cotation? Donc, quelque part, partout, que ce soit en politique, que ce soit en matière économique, nous sommes toujours les derniers. Est-ce qu'il n'est pas important? Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas dire non, non? Que nous puissions faire un effort, que nous puissions redorer le blason de notre pays, remonter, parce qu'il y va aussi dans notre pays. Vous voyez, on cite beaucoup d'exemples de certains pays. Or, nous, en Afrique centrale, nous sommes la RDC, nous devions être la plaque tournante, nous devions être ce pays-là qu'on cite. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais entre-temps, même nous-mêmes, nous citons l'exemple du voisin. Nous-mêmes, nous citons l'exemple du voisin, or, nous pouvons faire mieux. Donc, il est important que nous puissions nous rendre compte que si aujourd'hui, si demain on veut citer le pays, que c'est un grand pays, on devrait penser aussi à ce que la partie qui est restée, les 52% de la population qu'on a mis à côté, il y a moyen de pouvoir les remonter parce que les femmes capables, il y en a. Il faut savoir les trouver, il faut savoir et vouloir prendre celles qui sont capables et les mettre à des postes où ils peuvent faire quelque chose. Mais malheureusement, ce que nous rencontrons, c'est que on nous prend des femmes, c'est vrai, ce sont des sœurs, nos sœurs, nous ne pouvons pas les renier, mais malheureusement, ce ne sont pas des dames qui sont à la place qu'il faut. Et en ce moment-là, s'éternit l'image des femmes, premièrement, mais aussi des hommes et de la République entière. La parité n'est pas encore effective partout dans le monde. Sinon, alors, on ne serait pas ici. On est en train de travailler pour y arriver. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue des textes, la parité y est. Mais c'est maintenant du point de vue des faits. C'est là où nous sommes en train de nous battre. Regardez par rapport au gouvernement. Sur les membres, il y a combien de femmes? Est-ce qu'on avait besoin d'avoir ce nombre-là? Puisque nous avons la Constitution, qui l'a stipulée à l'article 14, et il fallait avoir une loi spécifique. Nous l'avons, mais malheureusement, on passe outre de cela. Le doute et la peur, mais c'est vrai. Écoutez, ne nous voilons pas la face. Comment sont vues les femmes qui sont en politique? Que ce soit par elles, par nous-mêmes les femmes et par les hommes. Et les femmes qui ont excellé en politique, elles ont dû laisser de leur plume sur quelque chose. C'est soit leur famille qui est battue en brèche, c'est soit leur mariage. C'est pas facile. Donc, quelque part, c'est aussi un combat de tous les jours. C'est pas la même réalité que les hommes. Prenez les réunions des partis politiques. La plupart du temps, ça commence à quelle heure? Ça commence toujours à des heures incongrues. Ou quelle est cette femme censée qui pourrait être à cette heure-là dehors? La réunion commence à minuit pour se terminer à 3 heures. Donc, quelque part, vous avez aussi... Donc, nous avons des problèmes de société pour lesquels nous devons donner ces certaines réponses. C'est comme ça que nous estimons que s'il y avait assez de femmes dans les directoires des partis politiques, je ne pense pas qu'on proposerait ces heures-là. Madame Bamando vous a dit ici, il y a tellement d'intrigues dans la politique qu'à un moment donné, vous devez réfléchir par deux fois si vous devez y aller. Parce qu'il y a certaines choses que vous devrez faire et ça vous coûte la vie. Mais très souvent... La vision que nous avons de nos sœurs là, elle est tellement mauvaise qu'à un moment donné, on a cette peur là, mais on voudrait les inciter à y aller parce qu'on estime que plus elles sont nombreuses, elles vont changer cette vision là et peut-être que toutes les intrigues que nous trouvons dans la politique là n'y seront pas. La rivalité, elle est normale au point des hommes que sur le point des femmes. Mais moi, je pense que, en fait, notre péché, c'est quoi nous les femmes? C'est que moi, j'estime que nous aimons trop la méritocratie. Que deux fois les hommes n'ont pas. Les hommes, il suffit qu'ils disent c'est un homme, on s'en fout du reste. Nous ne pouvons pas nous lasser de continuer à revendiquer pour la participation effective des femmes.
Maître Sissi Soulonge, votre mot pour clôturer.
Moi je me dis avec le système de quotas, il y a possibilité. Comme tout à l'heure le confrère le disait, c'est juste momentanément. Le temps d'atteindre un certain nombre d'élever des femmes en politique. Et puis nous allons retourner dans la vie normale en politique, c'est-à-dire l'application de nos textes. Avec les quotas, il y a possibilité. Avec les quotas, il y a possibilité, c'est que les femmes se retrouvent nombreuses.
sur la liste des partis politiques à l'Assemblée nationale, dans les assemblées législatives. Cela permettra, lors de l'adoption et des votes de loi, que les femmes puissent se retrouver réellement. Et là, nous dirons que les législateurs congolais a eu une certaine volonté. Et les législateurs congolais, à mon avis, aura une certaine volonté politique et quand les femmes seront assez nombreuses dans des assemblées législatives.
Madame Odette Babando.
Un dernier mot, je voudrais dire ceci. En dehors des textes qui sont en train de garantir notre droit à participer à la politique, en dehors du fait qu'il y a beaucoup de femmes techniquement fortes, intelligentes et capables. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas majoritaires, vous pouvez bien être dans les directoires des partis politiques. Mais ces partis politiques sont aussi gérés comme leur boutique, hein. Vous pouvez être bien capable, intelligente, vous occupez même le poste qui vient juste après le président. Mais comme c'est sa boutique et qu'il n'y a pas une force de pression de la femme derrière vous pour vous soutenir, ce que vous pouviez espérer avoir, vous ne l'aurez pas. J'ai vu ici en tant qu'avocat, dans mon cabinet, après les élections de 2011, comment la gestion des ambitions était en train d'être faite. Même un candidat d'un parti qui gagne, mais le président du parti qui va là-bas à la partie adverse, prendre l'argent pour vendre l'élection de son membre à quelqu'un d'autre. Et les femmes ne sont pas riches. Si le président du parti demande 50 000 dollars pour que vous puissiez gagner cet électorat-là, vous n'en avez pas. C'est que celui qui vient même d'un autre parti qui donne 50 000, vous perdez. Mais si vous avez vos sœurs derrière vous pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec cette histoire, même à la Cour suprême, nous allons arriver pour défendre cet électorat, vous allez voir que les choses vont changer.
Merci. Merci beaucoup, Madame Egy.
Allons dans nos familles, soyons des leaders, des modèles, parce que c'est à partir de nous que nous allons amener toutes les femmes de nos familles et toutes nos amies. Je vous remercie.
Nous pouvons avoir tout un tas de textes pour garantir la participation de la femme en politique, mais tant que nous-mêmes nous ne sommes pas réveillés pour pouvoir jouir de ces droits, pour pouvoir profiter de ces textes, il n'y aura même pas parité dont on parle. Parce que les textes sont là juste pour garantir, pour nous encourager. Mais c'est notre participation personnelle, notre engagement personnel qui permettra qu'on puisse se retrouver en politique. Parce que la politique dans nos pays africains, c'est plein de turbulences, hein, dans la politique et beaucoup de bouillonnements. Et quand nous devons nous battre pour que la démocratie devienne effective, et cela exige beaucoup d'engagement de la part de ceux qui veulent faire la politique. Ce n'est pas un jeu d'enfant faire la politique. La politique exige beaucoup de connaissances, beaucoup de bagages intellectuels et beaucoup de moralité et beaucoup de connaissances civiques. Parce que c'est un jeu, quand vous y entrez, il y a beaucoup d'entraves là-dedans. Il y a beaucoup d'opacité, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de fourberies. Vous devez vous préparer à tout ça. Et si vous n'avez pas de capacité à anticiper, si vous n'avez pas de bagages intellectuels à contourner les jeux politiques, vous risquez de vous retrouver sans un lendemain dans la politique.
Débat très, très intéressant. Merci beaucoup. On peut... Merci infiniment de vous être déplacé. Vous avez compris le sens du combat, le sens du sujet, le sens du débat et le sens de l'apport de la femme dans la résolution de la crise en République démocratique du Congo. Soyez-en donc remerciés et Internews va nous convoquer, je l'espère, très prochainement pour parler d'un autre sujet relatif à la femme, peut-être aussi à la politique en général.